France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Mozart Obeskite, né en Lituanie. Je suis pianiste, concertiste.
La Révolution chantante, c'est le nom des événements qui, entre 1987 et 1990, ont mené à l'indépendance de l'Estonie, la Lettonie et de la Lituanie. Mozart Obeskite a participé à ce mouvement.
C'est une période assez incroyable. Moi, je suis vraiment fière de mon pays. C'est le peuple lui-même qui a dit « ça suffit, on veut vraiment parler notre langue, on veut chanter nos chansons populaires ». On veut plus chanter la gloire de l'autre au peuple, de l'autre aux doctrines. Il faut savoir que Lituanie, c'est un pays très musical. Même maintenant, on peut encore aller dans les villages et dénicher quelques trésors chez les vieilles dames folkloriques. Quand j'ai étudié en Lituanie, on est allé en expédition toujours avec nos petits magnétophones pour relever les folklores et on le mettait sur les notes. Donc c'est un pays très musical, aimant les origines, tout ce qui est folklore, légende, tout ce qui est histoire de ce pays qui était glorieux. Mon pays est vieux de 1000 ans. Et on nous a déraciné totalement, on nous a dit non, vous serez un homme nouveau, oubliez vos ducs, oubliez votre histoire, oubliez qu'au 15e siècle, Lituanie avait les frontières de la mer Noire jusqu'au Moscou. Oubliez tout ça, vous êtes rien, vous êtes... voilà. Et ça, on n'a pas avalé, nous avons quand même le caractère spécifique. Et quand l'Union soviétique nous a commencé à enlever notre folklore, notre langue et notre religion, c'est là on a dit basta, c'est plus possible, ce n'est plus nous, et on va résister comme on a résisté toujours. Et en 89, en août, 23 août 89, on a fait quelque chose d'incroyable. On s'est pris par les mains à travers les trois pays baltes et on a formé une chaîne humaine de 300 kilomètres. Et on a chanté. Et on a chanté en guise de protestation. Notre révolution s'appelle Révolution chantante. Les intellectuels préparaient ce moment-là, les poètes, les artistes, aussi les philosophes, les écrivains allaient dans les usines, allaient dans les villages, parler. Et c'est comme ça que ce peuple s'est réveillé.
C'est une révolution qui s'est faite sans violence ?
Sans violence, seulement avec violence courte de 13 janvier 1990, où les chars Gorbatchev voulaient quand même établir l'ordre. Et ça nous a fait des dizaines de morts, mais plutôt par l'accident que par la riposte violente.
Et vous, donc, vous vous souvenez évidemment de cette journée où vous avez fait cette chaîne humaine. Ça devait être effectivement quelque chose d'assez incroyable. Enfin, les gens dans la rue se sont donné les mains, c'est ça,
à travers tout le pays. À travers trois pays baltes. Et la radio annonçait les kilomètres qui étaient encore non remplis par les gens. Les gens partaient avec les enfants. Et vous pouvez voir sur Internet, même aujourd'hui, la voie balte filmée de hélicoptères ou ailleurs. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est splendide.
Mais la résistance s'est organisée, vous nous avez dit aussi, avec les intellectuels, les philosophes, les poètes. Concrètement, vous diriez que c'était quoi votre acte de résistance ? Comment vous faisiez résistance ?
Vous savez, déjà courtoyer les gens qui faisaient bouger le mur de Berlin. Or, je considère que ce sont les Lituaniens qui ont fait bouger le mur de Berlin. C'était déjà dangereux. Et Vytautas Landsbergis, qui est pianiste, qui est professeur de musique, qui était collègue à moi au conservatoire, et qui a écrit par ailleurs la thèse de doctorat sur la musique de Tchurlonis, ses idées étaient très porteuses et on adhérait complètement. Donc participer dans les discussions, dans les réunions, se prononcer. Je me rappelle, il avait une réunion à l'Académie nationale de musique, juste avant que je parte sur Paris, et le recteur a dit, vous partez d'ici, soit j'appelle la milice. Et on n'est pas parti. Je risquais très gros, personnellement, je pouvais de ne plus partir à Paris.
Et cet homme qui a été donc le premier président de la Lituanie, ça s'est passé comment ? Vous avez voté, il a été élu, il y est resté assez peu, je crois, un ou deux ans. Est-ce que c'était quelqu'un, vous dites que c'était quelqu'un qui aimait la musique, qui était pianiste, est-ce qu'il était fait pour être aussi président d'un pays ?
Justement, c'était un homme, c'est un homme d'énorme courage, parce qu'il est toujours en vie. On se voit régulièrement en concert et ailleurs. Sa femme est aussi pianiste, bonne pianiste. Lui était plutôt la voix nationale, la voix du peuple, la voix de la liberté. Et il est devenu président par intérim. Il n'était pas président élu. Après, il y avait un autre président qui a été élu. Mais c'est lui qui a soulevé le peuple. C'est lui qui est parti à Moscou pour dire, pour les réunions centrales de parti, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est, pour dire qu'on ne veut plus être là-dedans, qu'on veut partir, qu'on dorénavant on sera libre. Il y a les films sur ces événements-là, sur ces paroles, ce qu'il a prononcé, et c'est absolument hallucinant. À l'époque, c'est les menottes et c'est là-haut sur la carte et à droite, comme on disait, donc vers la Sibérie directe.
vous dites évidemment que cette révolution est aussi passée par le répertoire folklorique, par les artistes nationaux. Il en est un qui est important pour la musique, dont j'aimerais qu'on parle un petit peu, c'est Turlionis, grand compositeur, pas uniquement compositeur, peintre aussi, Muzaru Basquitia. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage? Comment vous avez rencontré son univers, cette musique, et ce que c'est, ce que ça représente pour vous?
C'est la musique qui faisait partie de la musique de mon enfance. Ma tante et ma maman ont joué toujours Turlionis et les reproductions de ses tableaux étaient sur les murs. C'était un artiste exceptionnel qui a vécu très courte vie de 36 ans, mais qui était aussi bon dans la musique que dans l'art pictural. C'est quelqu'un qui a fait la première aquarelle abstraite avant Kandinsky, mais comme il n'était pas sorti de la Lituanie, donc c'est pas lui qui est considéré comme précurseur d'abstractionnisme. Ce qui est intéressant, dans ses peintures, vous pouvez voir les formes musicales. Vous pouvez voir les sonates, vous pouvez voir les fugues. Il y a les mouvements, allegro vivace, andante. Et tout est fait à la manière symbolique, comme les bateaux engloutis au fond de la mer, stagnant dans le mouvement andante, ou bien la végétation maritime dans la profondeur avec les vagues dans l'allegretto. Et en 94, quand j'étais déjà en France, je me suis dit il faut que je fasse connaître ce compositeur ici. Et j'ai fait un double album, c'était le première essai de connaître sa musique à l'Occident et ça a eu un grand succès, grande attention.
C'est une musique extrêmement poétique et qui fait penser par moments à Scriabine dans ce côté presque insaisissable des petites formes, des préludes. Est-ce que vous diriez que cette musique est à l'image de sa peinture, colorée, symboliste?
Je crois. Cette courte période de vie de sa création musicale, Il a passé de Scriabine chopinien, il est passé vers le Scriabine un peu futuriste, atonal, et ce sont plutôt les courtes sketches en ce qui concerne la musique pour le piano, mais très imaginaires. Il y a beaucoup de choses sombres, mais il y a aussi beaucoup de choses lumineuses, bien sûr. Il écrivait aussi pour l'orchestre ses poèmes « La mer », la forêt sont aussi très pittoresques.
D'ailleurs, la mer, je crois qu'il l'a même composée avant Debussy.
Oui, tout à fait.
Une sorte de grand poème symphonique.
Tout à fait.
Et c'est une musique qui vous accompagne encore aujourd'hui, régulièrement en concert, soit en bis, soit vous l'inscrivez encore très régulièrement à vos programmes de récital.
Oui, ça fait partie de mon identité. Je joue dans les programmes souvent, mais aussi Si c'est pas dans le programme, c'est très souvent je joue en bis. Souvent quand je suis vraiment loin, je sais pas, en Amérique du Sud, j'ai une sorte de pincement au cœur et là je joue Turlionis.
Les grands entretiens de Muzaru Basquitia, France Musique.
Est-ce qu'on pourrait parler, Muzaru Basquitia, de ces premiers concerts que vous avez donnés? Vous les avez même appelés par moments, je crois, concerts punition, lorsque vous alliez dans le fin fond de la Russie, puisqu'il y a eu, vous ne pouviez pas venir à l'Ouest, et votre carrière avait démarré, vous aviez eu ce premier prix au concours Budapest, vous aviez fini vos études, vous n'aviez pas encore forcément enregistré de disque. Quel a été ce moment où il faut gagner sa vie avec la musique, faire des concerts? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toute cette période?
Oui. En fait, gagner la vie en jouant le concert en Union soviétique n'était absolument pas possible. Et moi, j'ai eu la chance, on m'a appelé pour devenir professeur des universités tout de suite après avoir terminé le conservatoire de Moscou. Donc, je suis devenue professeur d'académie de musique, d'institution d'enseignement supérieur de la musique à Vilnius immédiatement après mes études. Et ça coïncidait aussi avec mon prix à Budapest, interdiction de mes passeports. Et en même temps, il avait la planification des concerts dans le grand l'Union soviétique qui était faite aussi par Moscou. Et Moscou vous donnait une liste des concerts dans les régions de l'Union soviétique. Et ces tournées étaient tournées de 10 jours, de 2 semaines, de 3 semaines en Sibérie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au sud, au nord, partout. Les conditions étaient horribles, c'est-à-dire il fallait voyager pendant soit en train pendant 3 jours, soit en avion avec les retards par manque de pétrole et tout ce que vous voulez, et puis avec les valises pleines de nourriture parce qu'on n'avait rien à manger là-bas. Donc encore ma chère maman préparait les conserves et je partais en expédition de 3 semaines toute seule vers Sibérie ou ailleurs. Bon, sur place, sur la liste, j'avais parfois 10, parfois 15 concerts, dont 3, 4, peut-être 5 étaient dans les philharmonies, dans les lieux artistiques. Les autres étaient les concerts d'obligation, de punition. Et c'est là où il fallait jouer pour le peuple soviétique. Il fallait aller vers le peuple. Donc il fallait aller dans les usines, il fallait aller dans les coins rouges des kolkhozes, il fallait aller dans les écoles. Et vous pouvez imaginer les instruments qui étaient fournis.
C'était pas des Steinway de concert.
C'était les instruments qui s'appelaient Octobre Rouge, Moscou ou Belarus. Et la plupart du temps, il était droit. Et évidemment, très, très, très souffrant.
Ça devait être aussi des moments un peu uniques, la rencontre avec aussi des personnes qui étaient aussi dans une sorte de misère. Alors évidemment, on parle facilement d'une misère physique ou alimentaire, mais c'était aussi une misère intellectuelle pour certains. J'imagine que vous avez joué des compositeurs dont ils ne connaissaient peut-être même pas l'existence. Enfin, c'est aussi une rencontre immédiate avec un peuple, avec une population.
Je crois que c'était très émouvant pour moi. Et contrairement à mes collègues qui prenaient ça comme une vraie punition, et qui, certains, il faut le dire, se saoulaient pour oublier tout ça. Moi, je trouvais ça intéressant. Déjà, je trouvais intéressant de rencontrer ces gens-là, de se retrouver dans les coins tellement différents, tellement lointains, où, je ne sais pas, où il fait moins 30, où il faut jouer avec les mitaines, où les gens sont habillés en fourrure dans la petite salle de coin rouge, où ils mangent leur sandwich. Parce qu'on leur dit qu'il faut venir. Et c'est pas par leur propre gré qu'ils sont venus écouter la musique classique. Ils étaient obligés. Et là, par cette obligation, ils ont découvert quelque chose. Et ils étaient touchés. Et ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu quelque chose si beau. Ou bien, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, c'était les rencontres précieuses. Thank you.
partir de quel moment vous avez pu quitter l'Union soviétique et la Lituanie, à part comment vous êtes venu à l'Ouest et comment se fait-il qu'on vous connaisse si bien en France? Je crois que ça a été un peu un pays d'une seconde patrie pour vous.
Bien sûr, j'adore la France, j'adore Paris. Je suis depuis 30 ans dans ce pays. Il faut dire que bien que étudier les langues n'était pas quelque chose de très commun en Union soviétique, parce qu'il ne fallait pas connaître les langues, parce qu'il ne fallait pas communiquer avec l'Ouest capitaliste. Dans ma famille, j'ai étudié le français et anglais. Donc j'avais les notions françaises et la culture française à travers ces notions aussi. Ma tante parlait français. Déjà dans la littérature lituanienne et aussi russe, la France était très présente. Donc pour moi, c'était un rêve. Et l'occasion s'est présentée, absolument l'occasion inattendue. Le recteur de l'Académie de musique, où j'étais professeur, j'enseignais, m'a dit, écoute, il y a une place, une bourse pour étudier la musique française à Paris. Est-ce que tu veux y aller? Donc pour moi, c'était invraisemblable comme proposition. J'étais déjà maître de conférence à l'Académie nationale de musique. J'enseignais, j'avais ma classe. Et puis on me propose de me mettre sur le banc d'école en quelque sorte. Mais ce qui était absolument intéressant pour moi et formidable, c'était la musique française. Justement, la musique française restait pour moi un point noir dans toute mon éducation musicale. J'ai étudié quand même professionnellement 19 ans la musique. Mais à Moscou, la musique française était enseignée comme un romantisme, comme suivi de romantisme. Et vu comme ça, ça ne me parlait pas. Vu comme ça, je me disais, il y a quelque chose d'autre. Debussy ne pourrait pas être joué comme ça, comme on joue à Moscou. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit, voilà, enfin, je vais comprendre. Et ça m'a parlé, et tout mon entourage disait, quoi? Tu vas là-bas, pourquoi faire? Tu as ton poste, tu as ta vie. J'ai dit, non, j'irai. Et je suis arrivée là, j'avais cette bourse. J'habitais la Cité des Arts et j'ai connu plein de personnes incroyables, notamment Olivier Messiaen, Yvan Loriot, toute une série de bonnes professeurs de Conservatoire National de Paris, aussi de l'École Normale. Et je me suis ouvert l'horizon incroyable à travers cette ville, à travers tout ce que ça comporte. Évidemment, j'avais quand même la barrière de la langue pendant 6 mois. J'écoutais, je ne pouvais pas prononcer un seul mot, mais je comprenais tout puisque j'ai étudié quand même.
Thank you.
Muzza Rubaschitté. La France, c'est une histoire d'amour. Elle a d'ailleurs consacré plusieurs disques à la musique de Louis Vierne, que nous écoutons ici avec le quintet pour piano et cordes, opus 42. Les références musicales se trouvent sur le site internet de France Musique et l'émission Les Grands Entretiens, que vous pouvez également podcaster. Cette émission a été réalisée par Gilles Blanchard avec Raymond Albuy, Valérie Lavalard et Flora Sternadel.
À réécouter sur francemusique.fr.